Je vous avoue que si je devais poser une conclusion sur la semaine qui vient de se terminer, ce serait probablement un truc du style j'y comprends plus rien. Bon, on vit clairement au jour le jour et on se concentre uniquement sur les news du jour, sans se souvenir de celles de la veille, ni celles qui arriveront peut-être le jour d'après ou la semaine suivante. La performance hebdomadaire n'est pas spectaculaire en tant que telle, et quand on regarde la clôture des marchés vendredi soir, le S&P 500 donne tout de même des signes d'inquiétude. Mais heureusement pour nous, après la frayeur de mercredi avec un emploi trop solide, on peut reparler baisse de taux avec les excellents chiffres de l'inflation américaine. Je ne vous cache pas mes doutes quant à la valeur que l'on peut accorder aux chiffres macro qui ont été publiés cette semaine, mais le marché, lui, ne se pose pas la question. Il faut dire qu'on lui donne exactement ce qu'il a vraiment envie d'avoir. Et en plus, c'est emballé dans un joli petit paquet cadeau avec des jolies fleurs et des jolies couleurs. C'est presque trop beau pour être vrai. Le narratif qu'on nous offre en ce moment, un grand renfort de discours de la Maison Blanche, nous donne clairement l'impression que l'économie américaine est sous contrôle et nous permet de nous concentrer sur un sujet par jour et pas un de plus. Ce qui nous permet de ne pas trop penser aux autres sujets qui pourraient éventuellement déranger ou nous déplaire. Les performances de la semaine ne sont pas exceptionnelles, donc, mais le SMI termine quand même au plus haut de tous les temps pendant que les marchés américains marquent le pas et donnent des signes de faiblesse à certains niveaux. Le Japon, lui, est au top de sa forme, et depuis l'arrivée de Takaichi, et c'est que du bonheur à venir, il faudrait juste à savoir comment elle va créer de la valeur et trouver des milliards et des milliards et des milliards de yens pour soutenir l'économie. Le tout sans faire exploser l'endettement et sans faire péter l'inflation à la hausse, bien sûr. Mais là, tout de suite, ça n'est pas la question. On croit d'abord au bonheur, on veut croire que les politiciens de tous les pays vont s'unir, se donner la main pour faire croître l'économie mondiale et que soudainement, leurs intérêts seront tournés vers ceux du peuple. On peut toujours rêver, bien sûr, mais je vous jure que quand je regarde avec quoi on nourrit le marché en ce moment, ce qu'il fait vibrer, j'ai parfois l'impression que le but principal revient à celui des Romains, du pain et des jeux pour que le peuple ne se réveille pas. Bon, on va laisser la philo de côté et on va faire le tour de ce qu'il faut retenir de cette semaine pour bien passer à la suivante. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 14 février 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On va commencer par le chiffre qu'on attendait cette semaine, le CPI américain. Enfin, je dis le chiffre qu'on attendait, c'est surtout celui qu'on attendait après l'autre chiffre qu'on attendait vraiment, les chiffres de l'emploi. Mais comme ils étaient sortis mercredi, on était déjà passé à autre chose vendredi. Donc, vendredi, on attendait le CPI. Mais avant de parler du CPI, je voudrais rapidement revenir encore une fois sur les chiffres de mercredi. On attendait donc 70 000 créations d'emplois, vous le savez, les experts étaient méfiants parce que 3 jours avant, on nous avait annoncé 100 000 licenciements en janvier. Donc forcément, le vrai chiffre qu'on ne disait pas, mais auquel on pensait très fort, c'était plutôt 50 000, 55 000 et un taux de chômage qui grimpait bien sûr. Bref, c'est sorti à 130 000, avec en prime un taux de chômage qui baisse. Alors, en temps normal, j'aurais eu tendance à dire que les économistes ont été brillants, encore une fois, mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même un tout petit peu, mais je dis bien alors un tout petit peu l'impression que les chiffres des NFP annoncés par le BLS de mercredi ne collent pas vraiment avec la réalité qu'on nous vend le reste du temps. Comme si on leur faisait dire ce qui nous arrangeait pour que l'économie semble forte, alors qu'en fait, à l'intérieur des chiffres, quand on gratte, eh bien, on note quand même une plus grande disparité entre les différentes castes sociales et que de plus en plus de familles en difficulté sont en train, tout simplement, de sombrer. Aux États-Unis, bien sûr. Mais peu importe, parce que le message frontal est excellent. L'économie est forte, l'emploi est fort. C'est en tous les cas le message que l'on veut nous faire passer. Et ça, même si les chiffres du pendant des NFP, l'emploi privé, disent plus ou moins le contraire. Le marché ne se pose pas trop de questions. Le message est passé, tout va bien, la méthode Trump fonctionne et puis c'est tout. Du coup, après les annonces de mercredi, on a commencé à se poser des questions. Est-ce que la Fed doit vraiment baisser les taux avec une économie aussi forte ? Mercredi soir, les experts pensaient que non et la Fed ne devait rien faire avant juillet en tous les cas. Mais ça, c'était mercredi soir. Bon, vendredi après-midi, 14h32, le chiffre est tombé 2,4%. Et d'un coup, Wall Street s'est arrêté de respirer. Depuis des années, l'inflation, c'est un peu le moustique qui te tourne autour de l'oreille à 3h du matin, tu penses qu'il est parti, puis non, il revient, il bourdonne, il te rappelle que la Fed n'a pas fini son boulot. Et là, janvier affiche 2,4% d'inflation sur un an. Alors, c'est pas spectaculaire, c'est pas un feu d'artifice non plus, mais c'est clairement plus bas que prévu. Le corps, celui que la Fed regarde vraiment, hors énergie et alimentation, ressort à 2,5%, plus bas niveau depuis 2021. Ce qui est super intéressant, c'est pas seulement le chiffre, mais plutôt ce qui raconte derrière. Le logement, qui pèse pour plus d'un tiers de l'indice, ralentit. L'énergie baisse avec un pétrole qui n'a cessé de monter au mois de janvier. Des tempêtes de neige et un froid glacial aux États-Unis. Ça a l'air assez logique comme ça. Pas du tout l'impression qu'on nous prend pour des cons. Et puis alors, le prix des voitures n'augmente pas et les œufs sont soudainement très 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 bon marché. Enfin, il paraît, hein. Y a personne pour le vérifier. C'est le BLS qui le dit. Mais on n'a pas de raison de ne pas les croire. Après tout, le gouvernement ne ment jamais, et ça serait étonnant que le président mette la pression sur qui que ce soit, c'est pas du tout son genre. Alors évidemment, les marchés ont fait ce que les marchés font toujours, ils ont commencé à calculer la prochaine étape. Oui, parce que si l'inflation ralentit, si elle se rapproche des 2%, si la croissance tient, et elle tient, puisque Trump parle de 15% de croissance à venir et que l'emploi cartonne, salutations amicales aux 100 000 qui se sont fait licencier au janvier et aux chômeurs longue durée qui sont de plus en plus nombreux. La bonne nouvelle, c'est qu'après un an de chômage, ils sortent des listes. Ils ne seront donc plus chômeurs. Bah, ils n'auront toujours pas de boulot, mais comme ça n'entre pas dans les chiffres, ça fera moins de monde au chômage. Encore un coup de maître du gouvernement. Alors du coup, dans ces conditions, eh bien la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire la Fed? On a une inflation qui baisse, elle va pouvoir baisser les taux. Oui, je sais, c'est la réflexion inverse de celle de mercredi soir, mais je vous l'ai dit, actuellement, nous avons une vision à 24 heures. Maximum. Faut rester super vigilant, actif et souple sur ses appuis pour être prêt à tout changement de direction. En gros, après les chiffres de l'emploi de mercredi, la probabilité d'une baisse des taux en juin était de 17%. Vendredi soir, les probabilités de baisse de taux en juin explosaient au-dessus des 80%. Ça fait vraiment tellement plaisir de voir que les économistes sont réactifs et sont prêts à tourner la veste à la vitesse de la lumière sur un seul chiffre. Pas toujours très crédible ni très représentatif de la vie de tous les jours. Il n'y a pourtant pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour comprendre et voir que le décor macro reste quand même vachement étrange. La croissance du quatrième trimestre est solide, on est à plus de 3,7%. Scott Bessent parle de 5,2% à venir et Trump, bah je vous l'ai dit, Trump il fait du Trump. Mais le marché de l'emploi, lui, il tourne au ralenti quand même. Ok, bon pour janvier, en admettant que c'est vrai, 130 000 jobs créés, c'est super. Bon. 100 000 licenciements quand même en même temps. 15 000 jobs créés par mois l'an dernier. C'est plus proche d'une trottinette que d'un moteur V8 pour l'instant. La consommation, elle tient par les ongles, mais sans euphorie. On a vu sur les ventes de détail que l'américain est quand même de plus en plus proche de ses sous et que la confiance du consommateur, alors elle est proche de zéro. Donc on est dans un monde où l'économie avance, l'inflation recule, les taux sont encore relativement élevés et les tarifs douaniers annoncés en grande pompe n'ont pas mis le feu à l'indice global comme c'était prévu. Vous reconnaîtrez que ça casse un peu le scénario catastrophe qu'on nous vendait il y a encore un an. On nous expliquait tarifs égale explosion des prix. En réalité, l'impact s'est vraiment concentré sur certaines catégories. Les meubles, l'électroménager, mais pas vraiment sur l'ensemble du panier. Enfin, moi j'ai été faire les courses l'autre jour, j'ai l'impression que ça fait que d'augmenter. Mais c'est personnel, et c'était pas aux États-Unis, je le conçois. Ce qui est fascinant, c'est le narratif politique qui est derrière. L'administration explique que la croissance n'est pas inflationniste si elle s'accompagne d'une augmentation de l'offre. Et sur le papier, c'est pas absurde, il faut quand même le reconnaître. Si tu produis plus, si tu investis plus, si tu augmentes la capacité, bah t'évites que la demande ne se fracasse contre un mur. La vraie question c'est, est-ce que ça tiendra sur le long terme? Attention quand même parce que la Fed ne décide pas en se basant sur le CPI, elle regarde surtout le PCE qui lui sortira vendredi prochain, le 20 février. Donc, on peut pas encore ouvrir le champagne, mais on sent quand même une certaine forme de basculement. On est passé d'un marché totalement obsédé par l'inflation hors de contrôle à un marché qui commence à se demander ouais, mais finalement, peut-être qu'on est en train de réussir le soft landing. Et si le mois de juin devenait vraiment le point de départ d'un nouveau cycle de baisse des taux? Et le plus fou dans tout ça, c'est que si j'avais écrit ce texte jeudi matin, eh bien, ça serait pas du tout, mais alors pas du tout, la même salade. Alors oui, je reste convaincu qu'on a bien arrondi les angles et qu'on sait comment faire plaisir à Wall Street Wall Street qui est quand même suffisamment naïf pour croire tout ce qu'on lui raconte sans trop se poser de questions. L'autre sujet de cette semaine qui se termine, c'était aussi l'intelligence artificielle qui n'est plus juste le thème porteur qui fait monter Nvidia. Elle est devenue un facteur de stress, un révélateur, une menace existentielle pour des secteurs entiers. D'ailleurs, on l'a vu sur le software dans un premier temps. Pendant des années, les éditeurs vendaient des licences, des abonnements, du SaaS bien propre, bien margé, bien prévisible. Et soudain débarquent des modèles IA capables d'écrire du code, d'automatiser du support, de générer des rapports, de remplacer des briques entières de logiciels. Résultat, certaines valeurs ont commencé à se faire massacrer. Non pas parce qu'elles vont disparaître demain matin, mais parce que le marché déteste une chose plus que tout, c'est l'incertitude sur le modèle économique. Et quand le marché commence à se demander si ton produit peut être absorbé par une couche d'IA générique, eh bien la prime de valorisation fond comme neige au soleil. Ensuite, ça a été le tour du juridique, longtemps considéré comme intouchable, trop technique, trop réglementé, trop humain peut-être. Et pourtant, des cabinets aujourd'hui annoncent des gains de productivité massifs grâce à l'IA générative, des tâches entières, revue de contrat, due diligence, recherche juridique, compliance, tout ça est automatisé en quelques minutes. Ce qui prenait des équipes entières pendant des jours est désormais compressé en quelques heures. Les marchés ont immédiatement compris la conséquence. Si la productivité explose, soit les marges montent, soit les honoraires baissent sous pression concurrentielle. Dans les deux cas, le statu quo disparaît. Même logique dans la finance et l'investissement. Les modèles quantitatifs existent depuis 30 ans. Mais là, on parle d'IA capable d'analyser des montagnes de données non structurées, de synthétiser des publications, de détecter des signaux en temps réel. Les desks s'équipent, les asset managers aussi, et dans l'ombre, une question qui plane, combien d'analystes juniors sont réellement indispensables si une machine peut produire une note complète en moins de 10 minutes? C'est pas une révolution théorique, c'est une compression des coûts en direct. Et la bourse adore les compressions de coûts, enfin, jusqu'au moment où elle comprend que la compression touche aussi les revenus. C'est là que le marché commence donc à devenir nerveux, parce que l'IA ne se contente pas de créer des gagnants, elle crée aussi des suspects. Chaque secteur à forte composante intellectuelle devient une cible potentielle. Consulting, assurance, immobilier de bureau, back-office bancaire, marketing, médias. La question n'est plus est-ce que l'IA va changer le secteur, mais plutôt à quelle vitesse elle va le changer. On l'a vu dans les mouvements récents, rotation brutale, certaines valeurs liées à l'infrastructure IA explosent, d'autres considérées comme exposées au remplacement partiel se font corriger sans même avoir publié de mauvais chiffres. Le marché est en train de pricer le futur avant qu'il ne se produise. Et comme toujours, il exagère, probablement. Aujourd'hui, l'IA est à la fois moteur d'euphorie et source d'angoisse. Elle justifie des valorisations stratosphériques d'un côté, mais elle comprime les multiples de l'autre. On est exactement dans cette phase charnière où la technologie passe du statut de thème d'investissement à celui de force macroéconomique. Et quand une innovation commence à modifier la structure des coûts, la structure de l'emploi et la structure des marges, eh ben c'est plus juste une histoire de technologie, c'est une histoire de marché. Et ça, c'est peut-être que le début. Enfin, peut-être. Et puis, on notera aussi cette semaine qu'on a eu l'impression que les Magnificent Seven étaient plus aussi magnificent que ça. Apple s'est fait démonter à cause de leur IA qui fonctionne pas assez bien. Microsoft est en bear market. Amazon l'a rejoint dans la zone et n'a plus vécu une période aussi pourrie depuis 20 ans. Bezos va peut-être devoir revendre son yacht et sa poupée en plastique. Mais c'est surtout le thème des dépenses sur l'IA qui pèse sur ces géants. On approche les 700 milliards de dépenses pour l'année afin de construire des data centers et personne n'est capable de nous dire si ça rapportera du fric un jour. Et si oui, combien? La peur commence à devenir une vraie option et elle pèse sur les Mag 7 qui empêchent le S&P 500 de monter, d'où le blocage monstrueux au niveau des 7000 points. Il y a aussi, bien sûr, la divergence entre le Dow Jones qui a battu des records et les autres indices qui ne peuvent plus en avant. Divergence qui fait peur et qui commence carrément à faire douter. À la fin de cette semaine, on peut donc retenir que l'emploi américain est très fort, mais quand on gratte sous la surface, il y a quand même des questions qui se posent, que le CPI est faible et que le coût de l'énergie baisse aux USA, mais quand tu demandes aux Américains, ils te disent que c'est toujours compliqué de payer les factures de chauffage, mais que t'as pas le choix en hiver. On sait aussi que le plan Takaichi au Japon, c'est génial sur le papier, mais ça risque d'être moins drôle à appliquer économiquement, mais c'est trop tôt pour gâcher la fête. On a bien compris aussi que la croissance va exploser aux USA et que le gouvernement est prêt à dire n'importe quoi pour qu'on veuille bien y croire. Et puis, Et puis on sait aussi que la Fed peut baisser les taux en fonction des chiffres qui sont publiés. Mais que selon les autres chiffres qui sont publiés plus ou moins au même moment, eh ben elle ne peut pas. On pensait que Powell avait un job de merde, mais celui de Warsh pourrait être bien pire. Et puis, by the way, on n'a toujours aucune nouvelle de la Cour suprême qui doit donner son avis sur les tarifs de Trump. Ils sont portés disparus. Totalement portés disparus. On attend depuis un mois des réponses. Il paraît qu'on les a embarqués sur un porte-avions américain et qu'ils vont être parachutés sur l'Iran avec des parachutes aux couleurs du drapeau américain. Bref, en conclusion, ce marché va bien si on regarde de loin, ce qu'on fait en général, mais si on gratte sous la surface, c'est parfois quand même vachement plus compliqué, mais c'est plus simple de ne pas le voir. Côté conjoncture helvétique, c'est un petit peu schizophrène. En Suisse, le consommateur a visiblement rangé sa carte de crédit dans un tiroir au mois de janvier, le moral recule encore, l'indice du climat de consommation tombe à moins 30,1 points, un poil pire que l'an dernier, en clair, l'appétit est limité, l'enthousiasme aussi, et les inquiétudes pour l'économie à venir gagnent du terrain. On ne parle pas d'un effondrement, mais clairement pas d'un festival d'optimisme non plus. Le consommateur suisse avance, mais en regardant quand même par-dessus son épaule. Et pendant ce temps-là, à l'échelle mondiale, le COF raconte une autre histoire, les baromètres économiques continuent de grimper en février. En gros, on a l'impression qu'on est au-dessus de la moyenne historique et la tendance reste quand même orientée à la reprise. Selon le patron du COF, l'économie mondiale tient bon, malgré les tensions géopolitiques, malgré le bruit ambiant, la machine continue de tourner. Donc, en résumé rapide, le monde se redresse et le Suisse, lui, il reste prudent. Et au milieu de tout ça, la Confédération en profite pour se financer. Deux émissions obligataires ont été finalisées cette semaine pour un total de 372 millions de francs suisses. Une ligne à 0,5% qui arrive à échéance en 2032 et une autre à 0,5% pour 2040. C'est hyper sexy de prêter à la Confédération quand même. Si on regarde les performances de la semaine à l'international, vous voyez donc le Nikkei qui prend quasiment 5%, le Brésil derrière avec près de 2%, et puis l'or qui continue, enfin qui se reprend un petit peu, les semi-conducteurs qui tiennent quand même bien le coup, ça a été très populaire, on a vu des gros investissements du côté de la Corée du Sud, hein, c'est le marché très porteur en ce moment, la Suisse qui gagne presque 1%, mais qui termine quand même au plus haut de tous les temps, et puis de l'autre côté, on a le CAC 40 qui est tout juste à l'équilibre, mais qui a aussi touché les plus hauts historique cette semaine, et puis le pétrole un peu plus faible à cause des stocks qui sont visiblement énormes et de la consommation qui diminue, malgré que tout a l'air d'aller très très bien aux États-Unis, le Nasdaq qui termine en baisse de 2,10%, et le Dow Jones des transports qui se fait allumer en perdant quasiment 3% sur la semaine. Du côté des titres qui composent le SMI, donc on a Swisscom qui reprend 6,12% après la publication des chiffres, ABB qui continue de cartonner, Novartis qui continue de bien monter, vous avez également Swiss Re qui se reprend un petit peu, Roche qui gagne 1%, Nestlé qui gagne presque 1%, donc quand vous avez tout ça qui monte, forcément l'indice monte sur la semaine et nous permet donc d'aller chercher ses plus hauts historiques. De l'autre côté, vous voyez que c'est les autres qui baissent de manière un petit peu disparate. Kuehne+Nagel, on va y revenir dans 5 minutes, moins 9,5%. UBS qui perd 5%. On sent que les financières sont un petit peu sous pression à cause de ces histoires d'IA en général. On a un petit peu d'angoisse de ce côté-là. Mais voilà, grosso modo, un SMI qui termine en haut et au plus haut de tous les temps grâce à ses poids lourds et le reste qui va un petit peu dans tous les sens. C'est pas non plus l'euphorie. Du côté des graphiques de la semaine, alors vous voyez tout de suite le SMI. Donc voilà, nouveau plus haut historique. On est à 13 667,67. Difficile de faire de l'analyse technique là-dessus, mais vous voyez qu'on est dans un immense canal haussier pour l'instant qui ne donne absolument pas de signe d'inquiétude. D'un point de vue de tendance intermédiaire, on est dans une tendance haussière, on voit qu'on a toujours notre fameuse moyenne mobile qui fait office de support de toute manière. Vous voyez, à chaque fois qu'on vient dessus, bah, il faut se repositionner. Maintenant, on peut envisager une accélération en direction des 14 000 ces prochains temps, tant qu'il n'y a pas de mauvais signaux qui viendraient sur le SMI. Donc, tout a l'air d'aller plutôt pas mal, surtout qu'on est plutôt en mode défensif en ce moment au niveau de l'investissement mondial. Le S&P 500, vous voyez comme quoi, c'est pas tellement l'euphorie. On continue dans ce range latéral. Hein. Vous voyez que pour l'instant, ça a l'air de faire presque un top qui aurait tendance à vouloir faire comme ça. On n'arrive pas à casser les 7000 pour toutes les raisons qu'on a déjà abordées sur le S&P 500. C'est très très fatigué. On a de nouveau cassé la moyenne mobile des 50 jours et on termine la semaine en dessous. Et c'est assez intéressant. Vous savez, regardez, je vais passer le graphique là étant daily, mais si je le passe en hebdomadaire, ceci est donc le graphique hebdomadaire du S&P 500. Vous voyez que là aussi, c'est beaucoup plus lissé. Mais on voit quand même qu'on a des phases d'exagération qui commencent à se dessiner de plus en plus. 2 semaines compliquées, 3-4 semaines compliquées, Et là, surtout 4-5 semaines d'hésitation totale au niveau du S&P 500. C'est pas forcément des choses qui sont très rassurantes. On voit que, la tendance est plus souple et plus linéaire. Mais là, on est vraiment dans une phase d'abord moins raide et beaucoup plus hésitante sur le S&P 500. Donc, c'est des choses qu'il faudra surveiller parce qu'on sent qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de bouger à l'intérieur même de l'indice américain de référence. Le Nasdaq, alors lui aussi, la tendance est cassée pour l'instant. On va aller probablement rechercher les supports autour des 24 000 sur le Nasdaq ces prochains temps à surveiller. Attention parce qu'on va aller chercher la moyenne mobile des 200 jours ici qui est dangereuse. Et puis si vous regardez les moyennes mobiles qui sont en train de changer de direction, ça nous amène quand même vers ce qu'on appelle une dead cross ces prochains temps. Donc attention, on voit quand même qu'il y a une certaine faiblesse sur la technologie. Ben, ça, c'est clair que les Magnificent Seven qui nous ont amenés jusque-là nous aident pas à continuer le mouvement pour l'instant. Les semi-conducteurs continuent à bien se comporter, mais attention, on a marqué un double top la semaine dernière ici. Vous voyez qu'on a touché, mais on n'arrive plus à aller chercher les plus hauts non plus. Pour l'instant, c'est tous les titres qui sont liés à la mémoire, on en a déjà parlé, qui continuent de bien tenir le marché sur le Sox, pardon. Et ceux-ci permettent de tenir le coup, mais attention, on a Nvidia qui va sortir dans 12 jours. Et cette tendance haussière intermédiaire qu'on a sur le Sox doit absolument tenir. Donc, à surveiller la moyenne mobile des 50 jours à 7600, grosso modo, sur le Sox. Si on vient se balader là en dessous, ce ne sera pas très bon. Autrement, il faudra vraiment qu'on aille recasser ces 8400 pour confirmer la cassure de ce double top éventuel. On part en Europe. La France a fait un bref plus haut jeudi, intraday, mais termine en dessous. Alors là, pareil, vous voyez qu'on a été chercher encore une fois au-dessus des 8400, mais on n'arrive pas à s'établir en dessus. Il y a eu pas mal de chiffres publiés la semaine dernière en France. On a eu des bonnes nouvelles au niveau de Total. On a eu des mauvaises nouvelles sur Dassault Systèmes, ce qui justifie un petit peu ce repli. Mais enfin, pour l'instant, on a fait un plus haut historique intraday, mais pour l'instant, on n'arrive pas à confirmer sur le marché français. Le DAX, lui, il est toujours au milieu de nulle part pour l'instant, donc il n'y a pas grand-chose à signaler. Le DAX pourra repartir si tout d'un coup, on reparle de guerre et d'armement, parce que Rheinmetall l'aidera peut-être à partir, mais pour l'instant, on voit qu'on hésite vraiment et on n'a plus vraiment la niaque qu'on a eue, on va dire, depuis le mois de novembre sur le DAX, hein, quand on est passé des 22 000, des 23 000 jusqu'au niveau 25 500. Là, on a besoin d'énergie qu'on ne trouve pas pour l'instant sur les marchés allemands. Rapidement, l'or qui est toujours très volatile, mais vous voyez, pour l'instant, on consolide, on veut rester au-dessus de ces 5 000 dollars l'once. C'est la priorité du marché, semble-t-il. À chaque fois qu'on a des exagérations, on revient, mais on finit sur les 5 000. À noter quand même que le Nasdaq semble extrêmement... Pas le Nasdaq, pardon, l'or fonctionne avec le même type de volatilité que sur le Nasdaq. On a l'impression que quand tout d'un coup, vous avez des angoisses sur l'or ou sur le Nasdaq, et ben les deux commencent à réagir ensemble, alors que normalement, ils devraient avoir tendance à réagir différemment. Le pétrole qui va dans tous les sens. Alors, on a fait un bref incartade le 29 janvier au-dessus des 66 sur le baril à cause des tensions en Iran. Pour l'instant, on discute. Rien ne bouge, mais Trump parle quand même d'envoyer un nouveau porte-avions. Mais entre deux, on a eu les chiffres des inventaires pétroliers qui sont sortis très forts. Donc beaucoup de stocks, peu de consommation. On voit que malgré ce qu'on nous dit au niveau des chiffres économiques, on dit que la croissance est énorme, mais en même temps, il n'y a pas de consommation ou très peu de consommation au niveau du baril. C'est un peu illogique parce que forcément, si vous avez une grosse croissance, ben normalement, vous devriez avoir une grosse consommation au niveau du baril. Les chiffres sont contradictoires à ce niveau-là. Néanmoins, pour l'instant, ben on oscille entre ce range de 62-66 sur le WTI. Vous le voyez très clairement ici. Restera simplement à voir ce qui va se passer au niveau des décisions militaires ces prochains temps parce que clairement, la clé est ici pour la suite du mouvement sur le baril. Pour l'instant, on doit absolument tenir la moyenne mobile des 200 jours en bleu ici. Sinon, on ira chercher celle des 50 à 59,85. Mais c'est des petits mouvements. Voilà, pour l'instant, on attend. Le Bitcoin, vous voyez que c'est difficile. Hein. La purge a été faite, les pertes ont été prises. On a vu des nettoyages absolument monumentaux sur le Bitcoin. Mais on n'arrive pas vraiment à y retourner. Alors là, on verra si on arrive enfin à déclencher quelque chose. Mais c'est difficile. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait quand même qu'il y a beaucoup de purges qui ont déjà été faites sur le secteur. On passe maintenant aux vedettes de la semaine et on attaque tout de suite avec Schindler. Alors là, on n'est pas dans l'ascenseur émotionnel. On est dans la cage qui descend directement au sous-sol. Le titre s'est pris 10,3% après les résultats, dans les dents. Pourtant, si tu regardes vite fait, c'est pas vraiment l'apocalypse. Hein. Le chiffre d'affaires recule à 10,95 milliards de francs contre 11,24 milliards l'an dernier. Coupable principal, les effets de change. 431 millions qui s'évaporent à cause des devises. Le Francfort, c'est toujours sympa pour partir en vacances, mais beaucoup moins pour exporter des ascenseurs. Les commandes baissent légèrement de 11,42 à 11,31 milliards, rien de dramatique, mais pas de quoi non plus déclencher une standing ovation. Et pendant ce temps-là, le bénéfice net, lui, il progresse, 1,07 milliards contre 1,01 l'an dernier. Donc si on résume, les ventes reculent un peu, les commandes aussi, mais les profits, eux, progressent gentiment. Et pourtant, le marché a quand même vachement sanctionné Schindler la semaine dernière. Alors pourquoi? Eh bien parce que la bourse n'aime pas les entreprises en phase de digestion. Elle veut de la croissance, du muscle, de l'élan. Et pas un groupe qui explique qu'il sort plus fort et plus résilient après 4 ans de redressement. Le CEO, lui, il parle de la dernière étape du turnaround, d'une entreprise plus solide, plus résistante. C'est très bien. Mais en 2026, la priorité sera la croissance ciblée et l'amélioration des marges. Traduction boursière, on a stabilisé la machine, maintenant il faut relancer la cabine d'ascenseur. Et le problème, c'est que le marché, lui, il voulait déjà être au dernier étage. Vous voyez, donc ce qui est assez rigolo, parce que sur la publication des chiffres, donc le titre s'est fait démonter, on est allé chercher 280 qui correspondent finalement à ce petit point bas qu'on a eu déjà au mois de novembre, et puis depuis, eh bien, on a quand même bien récupéré, on a repris déjà quasiment 15 balles sur le bon Schindler, donc effectivement, comme vous voyez, à boire et à manger dans les résultats, ils ont été mal pris. Maintenant, dans l'autre, on voit quand même qu'il y a des opportunités d'achat qui se sont dessinées, puisque certains estiment que c'était l'occasion ou jamais de revenir dessus. SGS encaisse les fruits de sa restructuration, chiffre d'affaires record à 6,95 milliards, plus 2,2%, et marge opérationnelle à 16%, quasiment déjà au niveau cible de 2027. Le bénéfice net grimpe de 15% à 668 millions, le cash flow atteint un sommet, et les chiffres dépassent les attentes du marché. Malgré ça, dividende inchangé à 3,20, la priorité c'est garder du carburant pour investir et accélérer la croissance, et le groupe mise fort sur des méga tendances, durabilité, digital trust, ainsi que le marché américain qui est dopé par l'IA et la réindustrialisation. C'est solide sur le fond, mais le titre reculait quand même en bourse parce que en 2026, être bon ne suffit plus, il faut être spectaculaire. Voilà, ça se passe de commentaires. De toute façon, SGS, on est au milieu de nulle part. Hein. On oscille entre 91 et 97 depuis quelques temps. Les chiffres ont été mal pris. On est revenu sur la moyenne mobile des 50 jours et on rachète un petit peu pour aller rechercher le petit haut de range qu'on a pour l'instant sur SGS. Mais je vous cache pas que c'est pas le titre le plus passionnant à traiter et à avoir dans son portefeuille. Swisscom, c'est un peu le bon élève qui vient quand même d'avoir une moins bonne note en maths. Le chiffre d'affaires grimpe à 15,05 milliards de francs. Ça, c'est propre, même légèrement au-dessus des attentes. La machine tourne, les revenus sont là, mais le bénéfice net recule à 1,27 milliards contre 1,54 l'an dernier. Le BPA suit le même chemin à 24,54. En clair, ça gagne toujours beaucoup d'argent, mais un peu moins qu'avant. Et le marché, lui, regarde toujours la marge avant les volumes. Les analystes espéraient un peu mieux sur le profit. C'est pas dramatique, mais c'est pas parfait non plus. En revanche, côté dividende, Swisscom continue à se montrer généreux. 26 francs de dividende par action cette année, contre 22 l'an dernier. Et déjà la promesse de 27 francs pour 2026 si tout se passe bien. En résumé, les ventes sont en train de monter, les profits baissent, le dividende augmente, et nous, on se fait toujours arnaquer sur le prix des abonnements. C'est du grand classique Swisscom, croissance modérée, rentabilité solide et surtout rendement confortable. Pour 2026, la boîte prévoit un chiffre d'affaires légèrement en retrait, entre 14,7 et 14,9 milliards. Pas de révolution en vue, on est dans la stabilité et pas dans l'hypercroissance. Bref, Swisscom, ça fait pas rêver, mais elle continue de payer. Après, quand vous regardez le graphique, forcément, c'est plutôt encourageant parce que depuis le milieu du mois de décembre l'année dernière, eh bien, c'est littéralement l'euphorie chez Swisscom. Et malgré tout ça, vous touchez à 700 balles encore 26 balles de dividendes. C'est le graphique est juste spectaculaire, même si je continue à détester cette boîte, mais ça, c'est juste personnel. Et puis, dans la guerre de l'IA contre le reste du monde, on a Kuhne Nagel qui s'est fait démonter de 13% vendredi matin. Alors, pas de warning, pas de catastrophe opérationnelle, juste un article. Un article d'un journal philippin qui évoque la plateforme d'IA de Semicab qui serait capable de gérer 400% de volume de fret en plus sans aucun personnel supplémentaire, 4 fois plus de volume, même effectif. En 2026, ce genre de phrase suffit à déclencher un séisme boursier et les investisseurs ont donc immédiatement projeté le scénario. Si l'IA optimise les flux, réduit les trajets à vide et augmente massivement la productivité, alors les modèles traditionnels du fret forwarding deviennent carrément vulnérables. Pression sur les marges, pression sur les prix, pression sur tout. Est-ce que ce MICAP va révolutionner la logistique mondiale demain matin? Probablement pas. Mais aujourd'hui, la bourse ne price pas forcément le probable, elle price le possible. Et aujourd'hui, ne pas être perçu comme l'acteur qui maîtrise l'IA, eh bien, ça peut déjà coûter 13% en une seule séance. Voilà, vous voyez le graphique de Kuhn & Nagel, ça se passe de commentaires, mais c'est un peu dans la ligne de ce qui s'est passé ces derniers jours sur la thématique des softwares qu'on parlait au début, ou du juridique, ou de l'asset management. Tout ce qui est sensible à la pression de l'IA qui arrive, qui pourrait faire baisser les coûts, baisser les marges, remplacer carrément certaines parties de l'opérationnel, eh bien forcément, ça se ressent comme ça. Et le marché ne fait pas de prisonniers aujourd'hui. Il tire d'abord, il retire ensuite, il tire une troisième fois, et après, il va voir s'il y a encore quelqu'un de vivant, et potentiellement, il pose des questions. On passe maintenant au en vrac de la semaine, et on commence avec Basilea. Bonne nouvelle du côté de l'antifongique Cresemba. Les ventes ont atteint un niveau suffisant pour déclencher un nouveau paiement d'étape de 5 millions de dollars. Bon, c'est pas un jackpot, mais c'est le genre de milestone qui confirme que le produit avance dans la bonne direction. Les petits chèques réguliers, ça rassure toujours plus que les grandes promesses. Chez AMS Osram, la perte nette annuelle tombe à 129 millions d'euros. Oui, c'est encore rouge, mais on était à 785 millions il y a un an, donc on parle quand même d'un régime sec spectaculaire. En revanche, le chiffre d'affaires recule légèrement de 3,43 à 3,32 milliards d'euros. Coupable désigné, le dollar qui est plus faible et le ménage dans certaines activités non stratégiques dans les semi-conducteurs. On nettoie à la maison, mais ça fait un peu de poussière au passage. Barry Calbo, eux, ils misent sur l'avenir et sur l'intelligence artificielle. Ouverture d'un centre mondial d'innovation à Singapour, avec IA et excellence en enrobage de cacao intégré dans le même bâtiment. Oui, même le chocolat est en train de passer à l'algorithme. L'idée, c'est d'utiliser l'IA pour anticiper les saveurs, personnaliser les produits, optimiser les recettes. Le chocolat du futur sera peut-être prédictif. On vit vraiment une époque formidable. Et puis, Novartis continue de renforcer son arsenal en oncologie. Accord à long terme avec l'américain NeoWave pour sécuriser l'approvisionnement en actinium-225, un isotope clé dans les thérapies de radioligands. C'est stratégique, c'est très stratégique, parce que Novartis empile des briques dans ce segment qui pourrait devenir un pilier majeur de sa croissance. Accéléron annonce des changements au conseil d'administration, rien de dramatique, mais on ajuste la gouvernance. La Banque cantonale de Saint-Gall parle d'un exercice 2025 solide et généreux pour les actionnaires. En clair, ça gagne de l'argent et ça redistribue. Bell affiche de meilleures ventes sur l'année, la saucisse visiblement tient la forme, Montana Aerospace confirme son plan de vol pour 2026 après une année marquée par des cessions d'activité, on a allégé et maintenant on stabilise, lastminute.com annonce une hausse du chiffre d'affaires et une nette amélioration de ses indicateurs financiers, le Voyage reprend des couleurs, Leontech en revanche plonge dans le rouge après une année franchement très très compliquée. Là, on est plus proche de la turbulence que de la croisière. Datewiller parvient à atténuer sur la seconde moitié de l'année la contraction subie en début d'exercice. On ne parle pas encore de reprise franche, mais au moins, le freinage semble freiner la machine, justement. ABB rachète la société irlandaise Premium Power, spécialisée dans le conseil en ingénierie électrique. On continue d'élargir l'offre dans les services à forte valeur ajoutée. Sika met la main sur Hakim, fabricant turc de colle et mastic pour la construction. Encore une brique de plus dans la stratégie d'expansion ciblée. Le clancher, malheureusement, reste donc dur. Les salaires de janvier ne sont toujours pas versés aux 369 employés. L'entreprise évoque des problèmes de liquidité à court terme. Quand on commence à parler de cash à court terme, c'est rarement anodin. Et on termine donc avec Mobimo, plus de recettes locatives l'an dernier, mais surtout un bénéfice net nettement amélioré grâce aux revalorisations. L'immobilier adore les coups de pouce comptables quand le marché coopère. Du chocolat à l'actinium, de la saucisse aux isotopes radioactifs, la Suisse reste un marché d'une diversité absolument fascinante, il faut le reconnaître. Pour la semaine prochaine, la Chine sera fermée toute la semaine, les USA seront fermés lundi pour President Day. Côté chiffres, on attendra le PCE vendredi au chapitre des trimestriels, on arrive au bout de l'histoire et ça se calme sérieusement, il faut encore attendre une douzaine de jours pour avoir Nvidia et fin février, ça sera bouclé. En conclusion, tout semble aller pour le mieux, si on en croit les chiffres, mais les marchés ne semblent plus très motivés pour aller chercher beaucoup plus haut. L'Iran reste un sujet qui ne fait pas de bruit, mais qui peut nous péter à la figure, et l'état de santé des Mag 7 dictera le rythme de ces prochains jours. On va y croire, on veut y croire, mais mentalement, ce marché reste quand même vachement bipolaire. Passez un excellent week-end et à lundi pour un Morning Bull Live Light en l'absence d'Éricain. Et puis on n'oublie pas, on s'abonne parce que ça fait plaisir et que depuis hier, on est 80 000 sur la chaîne. Ensuite, on active la cloche, on like, on partage et on commente. Donc merci, profitez bien et à lundi. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.